Xuno Assurance, célébrez nos 20 ans d'assurance. Découvrez votre profil en ligne sur monbonprofil.com après avoir suivi votre magazine Priorité Santé. Xuno Assurance, notre métier, l'assurance.
Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion. Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Un couple actif sexuellement, animé par un désir d'enfant, qui en l'absence de contraception après une période de plus d'un an ne conçoit pas de bébé. La femme se met à contrôler assidûment son cycle. La survenue des règles suscite la déception d'abord, puis la tristesse et peut-être aussi une certaine forme d'angoisse. Consultation, le terme de stérilité est évoqué et la médecine va tenter d'expliquer cette absence de grossesse. Maladie, malformation, environnement, on cherche à comprendre, même si parfois aucun facteur physique ne va expliquer cette impasse. Et face à cette situation, qui peut être à la fois douloureuse psychologiquement et stigmatisante socialement, le couple va chercher des solutions. L'infertilité et ses traitements, préoccupations planétaires face auxquelles les systèmes de soins offrent des réponses et des prises en charge, une nouvelle fois profondément inégalitaires. L'infertilité, notre sujet du jour dans Priorité Santé avec nous pour en parler, docteur Colline Chao, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes praticien hospitalier en gynécologie médicale, spécialisé en infertilité à l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis, en région parisienne. Tout à l'heure, nous retrouverons en ligne de République démocratique du Congo le docteur Antoine Mosikwa, gynécologue obstétricien, spécialiste en biologie et médecine de la reproduction à la New Medics Clinic, c'est à Kinshasa. Et en fin d'émission, nous retrouvons la chronique sexualité du docteur Catherine Solano, sexologue. Et puis bien sûr, notre numéro 1, le numéro de Priorité Santé pour nous joindre, poser toutes vos questions, 33 1 84 22 75 75.
Priorité Santé sur RFI.
Docteur Colline Chao, cette définition que donne l'Organisation Mondiale de la Santé de l'infertilité, une maladie du système reproductif définie par l'impossibilité d'obtenir une grossesse clinique après 12 mois ou plus de rapports sexuels réguliers non protégés. Cette durée de 12 mois, c'est aujourd'hui quelque chose qui est admis par la plupart des spécialistes?
Oui. On a encore des personnes, des patients qui pensent que c'est 2 ans, parce qu'il y a encore quelques années, c'était 2 ans, et ça a été réduit à 1 an.
Et justement, pourquoi penser qu'il faut moins de temps, une période plus réduite, pour commencer à envisager la possibilité de cette infertilité?
Parce qu'on a considéré que souvent déjà, quand on rentre dans un parcours d'infertilité, c'est un parcours qui est long. Donc en plus, si elles doivent attendre 2 ans avant d'entreprendre un examen ou 2 examens, on va perdre, les personnes peuvent perdre jusqu'à 5 ans avant d'entreprendre des traitements.
Alors justement, en termes d'âge, docteur Colline Chao, quand est-ce que vous estimez qu'il est bienvenu de consulter?
Donc toute personne en âge de procréer peut consulter dès qu'elles ont 1 an d'infertilité. Donc si la personne... elle a 18 ans, on peut penser qu'elle est jeune et que du coup c'est trop tôt pour consulter, mais dès qu'elle a 1 an de rapport régulier avec son conjoint, elle peut s'amener à consulter.
D'autant plus que, entre guillemets, normalement, même s'il n'y a pas de normalité en la matière, normalement à 18 ans c'est une période où une femme est particulièrement féconde.
Exactement.
Ça veut dire...
dès lors qu'une femme a ses règles, elle a donc une ovulation chaque mois. Et donc, on sait que de l'âge de 16 ans à 25-30 ans, c'est une période fertile.
Alors, pour les personnes qui ne se sont pas directement penchées sur ce sujet de l'infertilité, docteur Colline Chao, il faut bien distinguer des choses. Ce n'est pas parce qu'on a ces règles qu'on est forcément fertile.
Je dis aux patientes que quand elles ont leurs règles, elles ovulent normalement.
Normalement, mais là, peut-être que l'infertilité induit justement un processus qui ne se passe pas tout à fait normalement.
Pour moi, je considère quand une femme, bien sûr, il y a d'autres choses, mais ce que je veux dire, c'est que quand elles ont leurs règles, elles ovulent. Après, est-ce qu'on a un problème autre, tubaire, ou est-ce que c'est un problème de monsieur? C'est possible.
Et justement, est-ce qu'on parle aujourd'hui d'une infertilité véritablement plus préoccupante? Là, on parle en termes quantitatifs, en pourcentage de la population. C'est ce qu'on lit dans pas mal de journaux, docteur Colline Chao. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a davantage d'infertilité qu'il y a encore 20 ou 30 ans?
Oui, moi je pense que soit il y en a plus, soit c'est que on a de plus en plus de recherches qui sont faites de ce côté-là. Nous en France, de plus en plus de personnes privilégient la carrière avant le désir d'enfant et que le désir d'enfant vient beaucoup plus tard. Donc c'est sûr que si une personne vient à 35 ans, une patiente vient pour avoir un enfant à 35 ans après avoir fait sa carrière médicale ou même professionnelle dans l'ensemble, c'est plus difficile d'avoir un enfant, donc il y a plus de consultations.
Parce que précisément pour les femmes, docteur Colline Chao, cet âge de 35 ans, c'est un petit peu un moment où
un âge charnière.
On va dire gynécologique pour la femme, où ça bascule, où on devient moins féconde.
Exactement.
Et ça s'explique comment en termes physiologiques?
Il faut savoir qu'à la naissance, on est avec un stock de follicules, un stock d'œufs. Contrairement à l'homme, où ça se renouvelle tous les 3 mois, la femme, elle a un stock qui est défini et qui ne fait que de décroître au fur et à mesure de la vie, jusqu'à la ménopause où on n'a plus d'œufs du tout. Et donc là, il n'y a plus du tout de possibilité d'avoir d'enfants.
Alors, on entend souvent, docteur Colline Chao, le terme de parcours dans la bouche de ces couples qui évoquent leur infertilité. Est-ce que vous pouvez justement nous décrire quelles sont les grandes étapes de ce parcours, du moment justement où l'on constate... après avoir fait l'amour régulièrement, sans contraception, que la grossesse n'est pas là. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe?
Donc pourquoi on dit parcours? Déjà, il y a toujours une connotation parcours, on a l'impression que c'est long. Donc effectivement, les personnes, elles ont déjà au tout début peur de consulter. Ça veut dire elles se demandent où est-ce que je vais voir mon médecin traitant, mais des fois les médecins traitants ne sont pas à même de bien les orienter. Ensuite, elles vont consulter un spécialiste. Le spécialiste va leur prescrire un bilan. Ensuite, après ce bilan, on va donc décider de l'étiologie, de la cause de l'infertilité et donc leur donner le traitement adéquat.
Justement, c'est très important de connaître évidemment les facteurs de cette infertilité pour la prendre en charge correctement.
Exactement, on va donner un traitement adapté à l'étiologie, à la cause.
Et justement, pour cette recherche d'explication, est-ce que vous pouvez un petit peu nous décrire ces différentes causes, ces différents facteurs d'infertilité que vous rencontrez, docteur Chao, en consultation?
Donc, on a un couple face à nous, et donc on fait un bilan chez la femme. On va regarder si elle ovule, on va regarder ses trompes, si elles ne sont pas bouchées. Et d'autre part, on va regarder chez monsieur les spermatozoïdes. Et avec tout cela, on va regarder d'où vient la cause.
Alors, plusieurs raisons, ovulation irrégulière, kyste, obstruction tubaire chez les femmes. Est-ce que vous avez des chiffres en termes justement d'intervention chirurgicale ou même en termes de traitement plus globalement sur ces différents facteurs et sur les différentes interventions qu'ils provoquent?
Alors, il faut savoir que donc 70%, on va trouver une cause. 30%, c'est une infertilité inexpliquée. Dans les 70% où on retrouve une cause, donc il faut savoir que la fécondation in vitro, elle a été inventée initialement pour des pathologies tubaires, donc des trompes bouchées. Ensuite, donc la première chose, donc sur les trompes bouchées, on va faire une fécondation in vitro. Ensuite, on a la cause masculine avec une diminution du sperme.
Alors, vous restez avec nous tout de suite, docteur Colline Chao. Je vous propose d'écouter un témoignage.
Priorité santé sur RFI.
Et ce témoignage, c'est celui de Magali Benoît. Aujourd'hui, 37 ans, cette habitante de Drancy, en Seine-Saint-Denis, est atteinte d'endométriose. Et avec son époux, ils sont devenus parents de 3 enfants grâce à la PMA, la procréation médicalement assistée. Après avoir consulté plusieurs spécialistes, le diagnostic a été posé. C'était en 2008 et le centre de PMA du centre de fertilité de l'Est parisien de Bagnolet l'a prise en charge, Magali Benoît, avec tout neuf Mendy.
J'ai eu de très mauvaises pensées à un moment. J'étais vraiment très triste. J'étais prête à me séparer. En fait, j'étais sûre que je n'aurais pas d'enfant, en fait. Mon mari était tout aussi triste et abattu que moi, au moment où on a compris que cette maladie pouvait atteindre la fertilité.
À quels moyens avez-vous eu recours pour vous aider dans votre désir d'enfant?
La première préconisation après l'opération, c'était de couper les règles. Donc on m'a mis sous ménopause pendant 9 mois. donc une année supplémentaire de ce désir d'enfant. Et au terme de ces 9 mois de ménopause artificielle, j'ai été orientée en centre de procréation médicalement assistée. Ensuite, je tombe sur un gynécologue très bien et qui me dit que de toute façon, étant donné l'état de mon utérus, parce que j'ai aussi une adénomyose, c'est une forme d'endométriose qui se trouve dans le muscle utérin à l'intérieur de l'utérus. Et à cause de ça, ou grâce à ça, j'ai envie de dire, je suis passée en fécondation in vitro directement. C'est à ce moment-là qu'on stimule avec des injections, des piqûres à heure fixe tous les jours pendant 10 jours, aller à la clinique pour contrôler si ça se passe bien, donc avec des échographies intravaginales. Pour ma première stimulation, j'ai eu 21 embryons, 21 bébés potentiels, ça fait beaucoup quand même. Et en fait, j'ai eu 5 transferts de 2 embryons, donc en tout 10 embryons, la première année, sans grossesse en fait. Ça n'a pas fonctionné tout de suite. Alors du coup, j'ai épuisé tout mon stock d'embryons, j'en ai plus. Ma maladie récidive, du coup, hormonodépendante, stimulation hormonale pour pouvoir avoir les embryons, 1 an de transfert d'embryons, donc tout ça a inflammé ma maladie. Donc on m'a remise sous ménopause artificielle. Encore une fois, 9 mois. Donc c'est vraiment cette espèce de durée là qui fait penser à une gestation à chaque fois, c'est drôle. Et ben, la deuxième tentative, pareil, je réponds très bien au traitement. Je fais 19 embryons cette fois-là. On m'en transfère 2. Et ensuite, on a des prises de sang à faire pour pouvoir confirmer s'il y a grossesse ou non au bout d'un certain temps après le transfert d'embryon. Et là, ma prise de sang a confirmé mon intuition, j'étais bien enceinte. Donc j'ai une fille de 6 ans de cette tentative-là. Après avoir ma fille, il me restait 2 petits embryons tout mignons qui avaient survécu à la technique biologique qui consiste à les pousser un petit peu plus. Donc ils sont restés en vie pendant 5 jours et ils m'ont été transférés il y a 3 ans et j'ai des jumeaux de 3 ans.
À quel autre remède ou médecine parallèle vous avez aussi eu recours ?
Je me suis fait accompagner de manière autre que médicale. Techniquement médical. J'ai eu recours à une psychologue aussi. J'ai fait de la sophrologie, de la relaxation. Mes parents étant d'origine haïtienne, quand ils ont appris mon infertilité, il y a forcément et obligatoirement eu des aides. J'ai chez moi une petite bouteille de potion magique avec laquelle je devais enduire mon ventre quelques temps avant la tentative qui a fonctionné d'ailleurs. Moi, j'étais vraiment, vraiment obsédée par le désir d'enfant.
Comment avez-vous vécu, comment vivez-vous en couple cette hyper-médicalisation de votre relation ?
J'ai réussi à la gérer assez bien, dans le sens où j'ai impliqué mon mari dans les traitements médicaux. C'est lui qui me faisait les injections, donc il était obligé de rentrer à heure fixe. Du coup, on avait une complicité un petit peu plus importante pendant ces périodes-là, parce que il était omniprésent et acteur des traitements médicaux. Mais c'est vrai que ça a été difficile, par exemple, pendant les périodes où il devait avoir une abstinence d'un certain temps pour faire les recueils de sperme après, ou effectivement où notre vie sexuelle est régie, où on nous dit que de telle date à telle date, vous n'avez rien le droit de faire. Ces moments-là ont été un peu difficiles, mais bon, il s'en est sorti, il est là.
Aujourd'hui, comment allez-vous ?
Aujourd'hui, ça va très bien. Déjà, je suis maman de 3 enfants. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que mon vécu personnel m'a amené à faire une reconversion professionnelle. Et aujourd'hui, je travaille dans le centre de procréation médicalement assistée avec lequel j'ai fait mon traitement médical, en fait. Je travaille avec les couples infertiles et en procréation médicalement assistée.
Magali Benoît, témoignage recueilli par Tout Neuf Mendy. Magali Benoît qui citait son endométriose. Docteur Colin Chao, quelles autres maladies peuvent affecter la fertilité ?
Donc, comme elle a très bien dit, l'endométriose, l'adénomyose, toutes les pathologies tubaires, les pathologies utérines avec les fibromes utérins, les polypes utérins, toutes les causes ovulatoires, le syndrome des ovaires polykystiques notamment, et l'autre côté, la ménopause précoce qu'on entend, où le vrai terme c'est l'insuffisance ovarienne prématurée, donc les femmes qui ont déjà l'âge de 30 ans, des ovaires comme une femme de 50 ans.
Ce qu'on entend dans son témoignage, c'est que le couple est resté uni malgré cette épreuve, hein, on peut le dire malgré tout. Docteur Konishaw, c'est un point essentiel parce que ce parcours dont on parlait tout à l'heure, certains utilisent même le terme de parcours du combattant, peut véritablement altérer la relation du couple.
Exactement, on a beaucoup de couples qui malheureusement ne tiennent pas après ce parcours et qui se séparent. Qui vont chercher une autre femme ou un autre homme pour pouvoir aboutir à ce projet de grossesse.
Alors justement, il y a ce terme d'échec qui revient aussi assez souvent, Dr Konishaw. Est-ce que l'infertilité doit systématiquement impliquer une prise en charge, c'était le cas pour Magali Benoît, une prise en charge sur le plan psychologique?
Oui, nous, à l'hôpital Saint-Denis, on propose systématiquement un suivi psychologique. Parce que c'est déjà difficile pour la femme, mais c'est pour le couple vraiment une grosse épreuve. Et nous, donc, on a une psychologue qui accompagne le couple dès le début de la prise en charge et aussi donc si des échecs surviennent.
Alors, ces gynécologues, ces psychologues, dans un centre justement de procréation médicalement assistée, il y a tout un tas de spécialités. On rencontre qui également quand on est dans ce processus, justement pour mettre fin à cette infertilité?
Alors donc la première personne qu'on rencontre, c'est le gynécologue spécialisé en procréation médicalement assistée. Donc il faut savoir que la procréation médicalement assistée, c'est gynécologue et biologiste. Hein, donc ils rencontrent des biologistes, hein, c'est eux qui vont expliquer tout ce qui est côté sperme, côté spermatozoïde, ovocytes pour les ovules de la femme. Ils vont rencontrer dans le parcours une sage-femme qui sera là pour leur expliquer les injections, parce que c'est sûr, donc comme elle avait dit, des injections tous les jours, c'est sous-cutané, donc elles peuvent être faites par effectivement le mari ou par la femme, mais par aussi une infirmière. Donc tout cela, on a une sage-femme qui est là pour expliquer, et donc la psychologue.
Vous restez avec nous, docteur Konishaw, va prendre tout de suite les questions des auditrices et des auditeurs. Et tout de suite, cette auditrice hein, qui est en ligne avec nous, cette auditrice, c'est Sally, qui est en ligne d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Bonjour Sally.
Bonjour madame.
On vous écoute Sally.
Alors, comme je l'ai dit, avec mon mari, on est en couple, ça a fait 10 ans environ. Mais on a commencé à avoir le désir d'enfant, ça fait environ peut-être 8 ans. Bon, la première fois, c'était difficile. À chaque fois, on pensait, en Afrique, une fois qu'il y a un problème de du couple, en même temps, on pense que c'est la femme. Du coup, je me suis mise à faire plein de traitements, faire les hystéros et tout. C'est au cours de 2 hystéros, on m'a dit, finalement, il n'y a pas de problème à mon niveau. Donc, il faudrait que monsieur aussi fasse ses examens. Et c'est comme ça qu'il a fait. Et on a détecté une autre tétanie, en tout cas, les trucs, les spermatozoïdes qui n'étaient pas de bonne qualité.
Docteur Konishaw, c'est quoi le terme spécifique justement quand on a un déficit au niveau de la qualité de ces spermatozoïdes?
Une oligoasténothératospermie.
Bah on comprend.
Une OATS.
On comprend que Sally ait du mal à le dire. Hein. Et malgré tout, vous avez réussi à avoir un enfant.
Oui, on a fait des traitements, on a donné des vitamines pour mon mari, bien sûr. Les médicaments du genre Fertimax, et puis on l'a mis aussi sur acide folique. Après, on était un peu découragés, mais moi je me suis inscrite pour faire une fécondation in vitro. Et puis comme ça, le hasard a fait en août. Et puis je suis tombée enceinte comme ça, comme par magie. Mais le début était difficile parce qu'on disait peut-être que c'est un œuf clair et tout ça, parce que ça n'a pas vite embryonné. Mais par la grâce de Dieu, ça s'est bien passé, la petite action qu'on a aujourd'hui. Et depuis lors, on fait encore un deuxième, mais c'est toujours difficile parce que c'est toujours le même problème de monsieur. J'ai l'impression que ça se guérit pas totalement. Donc voilà, j'ai eu une première grossesse il y a 3 ans. Ça s'est arrêté à 8 semaines. Mm-hmm. Et ensuite, j'ai eu une deuxième grossesse. Là, il y avait un esclair carrément. Alors, ça s'est expulsé seul. Mais la première grossesse, on avait fait une analyse pour voir un peu les débris, comment ça avait provoqué la fausse couche. Bon, le docteur a fait l'analyse, mais bon, il a dit que bon, il ne voit pas d'anomalie, que ça arrivait comme ça. maintenant la deuxième, parce que c'était un œuf clair. Depuis là, je n'ai pas encore eu de grossesse, c'est toujours le statu quo.
Est-ce que vous avez une question, Sally, une question précise?
Oui, je voulais savoir, est-ce qu'il y a des traitements vraiment efficaces pour pouvoir gérer la qualité des spermatozoïdes chez l'homme?
Docteur Colin Chao.
Alors, il faut savoir que donc les vitamines peuvent améliorer. Donc en fait, ça dépend aussi de la qualité du sperme, si c'est vraiment très bas ou si c'est juste un petit peu diminué. Les vitamines peuvent améliorer un peu les spermatozoïdes, mais ça ne va jamais complètement réparer tous les spermatozoïdes. L'autre question que j'avais pour vous, vous avez quel âge, madame Sally?
J'ai 38 ans maintenant.
38 ans, et donc vous vous disiez que vous avez fait deux fausses couches, c'est ça? Donc, il faut savoir que jusqu'à 3 fausses couches, ça reste normal hein, pour une. C'est sûr que c'est difficile dans votre parcours hein, d'avoir des fausses couches, mais nous, on trouve ça que c'est positif quand même. Ça veut dire qu'il y a eu une implantation, que le spermatozoïde et votre œuf se sont rencontrés. Vous avez fait 2 fausses couches, donc ça reste encore la normalité. Ça veut dire que même une autre femme X ou Y à 30 ans, à 35 ans, peut faire des fausses couches. Il faut savoir que l'âge joue aussi sur les fausses couches. Hein. Donc plus on avance en âge, plus c'est difficile d'avoir un enfant. Et puis quand on a une grossesse, on a plus de risques de fausses couches parce que les œufs sont moins bons.
Voilà sur cette réponse et cette question pour savoir si il y a un lien justement entre le fait qu'il y a un problème que l'embryon ne se fixe pas, cette fausse couche, et la qualité du sperme de l'époux de Sally. Est-ce qu'il y a une corrélation entre les deux ou pas forcément?
Pas forcément, mais nous, on fait effectivement une recherche sur le sperme, où on va regarder donc la génétique du sperme, l'ADN du sperme, et on va regarder s'il est trop fragmenté, ça peut être une cause des fausses couches.
Voilà Sally pour cette réponse. Merci beaucoup pour votre appel d'Abidjan, Côte d'Ivoire. On va prendre en ligne Jean-Paul qui nous appelle du Congo, de Brazzaville. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour.
On vous écoute Jean-Paul.
Alors, pour faire court, je suis marié et depuis 2006, nous avons eu un enfant. Après, on s'est mis à chercher un deuxième qui n'arrivait pas. Et plus tard, madame a eu un arrêt de règles qui nous a fait suspecter une grossesse. Elle a fait un test de grossesse qui s'est révélé être positif. Et puis, quelques semaines plus tard, patatras, des suites d'une hyperactivité, elle a saigné abondamment. Et puis finalement, ce qu'on croyait être une grossesse, puisque c'était juste quelques semaines après, a coulé. Et depuis, plus rien. Bon, ça nous a amené à faire des examens et on m'a détecté une azospermie. Alors la première question, je me dis, comment c'est possible? On a eu un enfant, on pensait même à tenir un deuxième. Et puis voilà, on dit azospermie.
Cette question.
À l'issue donc.
Oui.
C'est la première question. Donc, après donc cet examen de concluant sur l'azospermie, on m'a mené à chercher la cause. Alors, j'ai fait donc plusieurs autres examens, entre autres l'échographie testiculaire et la biopsie testiculaire. Malheureusement, les résultats n'étaient pas concluants. Et le médecin m'a dit que. Logiquement, il fallait que je fasse une autre biopsie et qu'on envoie en France pour des analyses approfondies. Et je ne suis plus reparti faire cette biopsie-là.
Jean-Paul, quand le médecin vous demande de faire une autre biopsie, il vous a dit ce qu'il soupçonnait en particulier, ce qu'il recherchait?
Non, il voulait voir pourquoi est-ce qu'il n'y avait plus production des spermatozoïdes.
Derrière cette question, votre question, Jean-Paul, je m'adresse donc au docteur Colin Chao, il y a cette interrogation sur le fait que l'azospermie intervienne pendant la vie d'homme, on va dire. On peut être fécond à un moment de sa vie et ne plus l'être un petit peu plus tard?
Oui.
Comme les femmes?
Exactement, c'est possible. Il faut savoir que avant d'être azoosperme, monsieur a eu, enfin, il a un enfant, il a eu des spermatozoïdes. Il a dû passer sur une phase de, donc azoosperme, c'est zéro spermatozoïde. Hein. Il a dû passer par une phase de cryptozoospermie. Donc ça, c'est la définition, c'est inférieur à 500 000 spermatozoïdes. Et après, donc le sperme s'est dégradé rapidement jusqu'à l'azoospermie. Ensuite, les causes de l'azoospermie qui se font durant la vie, je pense que donc, comme monsieur a très bien dit, il a déjà eu des examens complémentaires, une batterie d'examens pour rechercher d'où vient la cause. Pour faire simple, on distingue les causes, deux types de causes en fait. Une cause due au testicule en lui-même, vraiment, il sécrète, il produit plus du tout de spermatozoïdes le testicule. Et l'autre cause qu'on recherche, c'est les tuyaux bouchés entre guillemets. Ça veut dire l'apport des spermatozoïdes du testicule jusqu'au pénis. Donc a priori, l'écho testiculaire permet ça. Après, je sais pas jusqu'où a été les bilans. Donc, si on a été jusqu'à la biopsie testiculaire, c'est qu'on voulait rechercher des spermatozoïdes dans le testicule. Est-ce que c'est bien ça, monsieur ?
C'était tout.
C'est ça, oui.
Pour voir
ça.
S'il y avait toujours une production.
Une production.
Voilà.
Donc, après, ils ont dû faire un bilan hormonal pour voir d'où venait le problème. Mais c'est sûr qu'on ne trouve pas forcément la cause de l'azoospermie. Après, je pense que votre médecin a dû chercher une cause. Si vous avez fait une infection des testicules, ça peut entraîner une azoospermie. Si vous avez eu un gros traumatisme testiculaire, un accident, ça peut aussi. Après, il y a tout ce qui est tabac. Je ne sais pas si vous fumez, ça peut être une cause qui peut entraîner jusqu'à l'azoospermie.
Donc voilà, tout un panel de pistes à rechercher. Jean-Paul, je pense qu'il va falloir que vous attendiez ces examens complémentaires pour être fixés, parce que pour l'instant, il n'y a pas vraiment de pistes ou de raisons que vous avez pu nous préciser.
Oui, mais en fait, examen complémentaire, sauf que moi, dans ma tête, je me dis, est-ce que ça peut se corriger ?
On peut pas dire jamais. Ça veut dire que là, effectivement, vous êtes azoosperme. On peut pas savoir hein, si dans 3 mois ou 4 mois, ça reste comme ça. Ou il faut de toute façon surveiller et contrôler.
Voilà, docteur Colline Chao, cette réponse, pas de réponse en tout cas stricte et ferme. Une forme d'incertitude et d'attente. Jean-Paul, on peut ni vous répondre dans un sens ni dans l'autre. Et de toute façon, on se priverait bien de le faire par téléphone. Comme ça, ce serait un petit peu aller un petit peu loin. En tout cas, on vous souhaite une très bonne journée à Brazzaville. Et on va prendre un autre auditeur. Alors, on va passer du côté de la République démocratique du Congo pour retrouver Bélor. Bonjour, Bélor.
Oui, bonjour, madame.
On vous écoute, Bélor.
Oui, oui. Moi, c'est un témoignage que je fais, et puis c'est une exhortation pour des couples qui connaissent parfois le même problème que moi.
Oui.
J'ai entré en mariage en 2012, et c'est depuis 2012 que je n'ai pas eu enfant jusqu'en 2015, j'ai eu ma première fille. Bon, tout le parcours, j'ai eu des problèmes sérieux avec ma famille, ma belle famille. Il y a toujours des critiques comme les Africains, vous savez que si vous n'avez pas d'enfants, qui vous entrez en mariage, c'est un objet de critique et moquerie. Nous avons enduré cette étape, on est allé jusqu'à prendre des gris-gris, ceci, cela, parce qu'il y a des tradits modernes qui nous donnaient des potions, ceci, cela, bon. En tout cas, je fais 2 ans et demi sans avoir trouvé des résultats. En 2015, juste au début là, j'ai constaté que mon épouse était enceinte et c'était juste une magie parce que elle a fait passer toute une semaine, et souvent, moi, je prends en charge, je fais des suivis de sa période. Et lorsque je vois que non, on est prêt, j'achète les linges hygiéniques. Et quand je lui ai demandé, mais ça fait une semaine que tu m'as rien dit, elle dit non, moi, je ne sais pas aussi, sinon, comme elle est infirmière, hein, il est doué, il m'a avoué, elle a dit non, ça fait la deuxième semaine, je ne connais pas de rêve. Et j'étais réjoui. Et surtout, la période qu'on cherchait à avoir le bébé, nous avons connu un peu de peine. Pour moi, personnellement, j'avoue, j'ai connu le spermogramme. On a révélé que j'étais à 58% de viscosité. Je croyais que même peut-être à 58, je ne sais pas si je pourrais avoir un enfant. Et du côté de ma femme, elle a subi une opération. Il y a eu la artiste, pays de Nyon. Juste après cette opération, nous avons eu un bébé. Mais après l'opération, le médecin qui était intervenu à la césarienne a dit, il faut commencer la tête du deuxième enfant après la deuxième année de votre fille. C'est-à-dire le deuxième anniversaire, il faut déjà commencer la tête du deuxième bébé. Bon, je ne sais pas. Selon l'avis de ce médecin, vous aussi vous pouvez me conseiller quoi? Est-ce que ça peut entraîner des problèmes si on commence la quête avant l'âge précisé par le médecin ou bien quoi? C'est ça ma question.
Docteur Colin Chao, l'espacement entre deux naissances, ce que ce médecin a dit à Bélor, c'est quelque chose que vous faites, vous par exemple, après une naissance, de dire il vaut mieux attendre un certain délai ou au contraire ne tenez pas compte de cela? Qu'est-ce qui se passe exactement?
Si, en fait, ça dépend de comment a accouché la femme. Donc, si elle accouche par les voies naturelles, il n'y a pas de délai. Pas de souci. Effectivement, suite à une césarienne, nous, on dit un an. Parce qu'il faut
c'est
savoir
quoi,
que
c'est en termes de cicatrisation?
De la cicatrisation de la césarienne. Donc, la césarienne, c'est, on a ouvert le ventre, et donc, on a ouvert l'utérus, et l'utérus, il est fragile, et il faut qu'il cicatrise. Si on fait une grossesse, un an, donc nous, c'est un an, si on n'attend pas les un an, on a un risque de rupture utérine, et ça peut être grave, ça peut entraîner le décès de la patiente.
Donc Bélor, c'est pour le bien-être de votre épouse hein, que ce médecin a dit d'observer ce délai. Donc,
mais deux ans, ça me paraît un peu long. Nous, c'est un an, donc
voilà. Ça dépend peut-être aussi. Peut-être qu'elle avait eu certaines complications. Ouais, il vaut mieux s'en remettre à l'avis de ce médecin. En tout cas, merci beaucoup Bélor pour cet appel de République démocratique du Congo de Kananga. On voit bien à travers ces différents témoignages la sensibilité, le ressenti des personnes. Est-ce qu'il y a vraiment, quand on parle d'infertilité, docteur Colin Chao, des choses à ne pas dire? Là, je pense par exemple à l'entourage. Hein. C'est souvent quelque chose qui est assez mal vécu. Quand autour de nous, certaines personnes font des petites allusions, des petites remarques. On peut parler de simples maladresses pour ceux qui les profèrent. Mais c'est ressenti parfois comme un véritable coup de poing pour ceux qui les reçoivent.
C'est vrai que c'est difficile parce que de nos jours, entre guillemets, pour bien réussir sa vie, il faut être marié, il faut avoir un enfant, deux enfants, donc tout de suite, et surtout dans certains milieux culturels où l'enfant, comme disait Bélor, hein, on a besoin de l'enfant, la famille qui va au bout d'un an de mariage presser le couple, pourquoi elle a pas d'enfant. Donc c'est sûr que c'est une pression déjà pour le couple et une pression supplémentaire de la famille et de l'entourage.
Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé directement, ce sont justement les facteurs psychologiques. Certaines personnes sous-entendent, on le lit, on voit des témoignages là-dessus, que en gros, si on n'arrive pas à avoir d'enfant, c'est parce qu'on est soit pas prêt, soit qu'on a subi un choc. Il y a des causes purement psychologiques de blocage à la fertilité, à ce désir d'enfant.
Il y a effectivement une cause psychologique qui rentre en compte. De quelle manière, on ne sait pas. C'est difficile à étudier, mais on sait que ça a une part dans l'infertilité. Hein.
Parce qu'il peut y avoir aussi sans parler forcément de traitement, mais du moins une prise en charge avec un psychothérapeute qui peut justement avancer sur certaines pistes de ce domaine du psychisme.
Oui, oui, essayer d'améliorer. Il y a, certes, on parle souvent d'une part psychologique, et il y a d'autres choses qui sont plus étiquetées médicales et qui peuvent complètement bloquer l'ovulation. Donc, chez des femmes très maigres, avec donc cette part psychologique qui peut vraiment rentrer. Et là, il y a un suivi avec un psychothérapeute qui peut améliorer ce côté-là.
Alors justement, ce ressenti face à l'infertilité, on l'a évoqué très brièvement avec nos auditeurs tout à l'heure. On s'intéresse d'abord, dans beaucoup de cultures, aux femmes. Si on est infertile, on regarde du côté de la femme. Après un certain temps, on regarde du côté de l'homme. J'y dis bien dans certaines cultures ou dans certains milieux. Est-ce qu'aujourd'hui, l'infertilité, c'est vraiment un problème de couple ou ça reste encore souvent un problème de femme?
Non, c'est un problème de couple. C'est un problème vraiment... J'ai encore aujourd'hui des personnes qui viennent et des personnes qui viennent et qui veulent faire seulement le bilan de la femme avant le bilan de l'homme. Nous, on fait toujours le bilan des deux en même temps parce que vraiment de mon expérience, c'est l'un et l'autre ou l'un ou l'autre.
Là, donc, vous parlez de votre expérience, docteur Colin Chao. Maintenant, je parle au niveau de la société. Est-ce que ça reste encore un problème de femmes? Ou du moins, est-ce que c'est, il y a vraiment des différences, on va dire, culturelles? Vous travaillez dans cette structure de l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis. Beaucoup de cultures s'y rencontrent. Justement, est-ce que vous avez différents ressentis en fonction des différentes origines?
Oui, nous, à Saint-Denis, c'est multiculturel, hein, donc on a vraiment de tout. On peut avoir des primo-migrants, on a beaucoup de gens d'origine indienne, sri-lankaise, même de l'Afrique. Chacun vient avec sa culture, chacun vient avec ses desiderata, et nous, on est là pour essayer de s'adapter à chacun.
Et s'adapter, mais tout en suivant un protocole
exactement,
totalement français, totalement de Seine-Saint-Denis. Docteur Colin Chao, vous restez avec nous. On va partir tout de suite pour la République démocratique du Congo.
Priorité santé sur RFI.
Et pour retrouver le docteur Antoine Mosikwa, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes gynécologue obstétricien spécialiste en biologie et médecine de la reproduction à la New Medics Clinic de Kinshasa. Votre établissement, eh bien, c'est tout simplement la seule clinique spécialisée en PMA en République démocratique du Congo. Est-ce que cette spécialité infertilité, reproduction, eh bien, est-ce que docteur Mosikwa, c'est une question encore taboue dans votre pays?
Bon, tout d'abord, bonjour à tous les auditeurs de RFI, à vous-même, Caroline Paré, et au docteur Colin Chao. Mais il faut dire que l'infertilité du couple est un sujet qui reste toujours un peu intime dans le couple, parce que ça tient, disons, de ce qui est secret dans le couple. Et cela devient une réalité sociale, puisque l'environnement commence à remarquer que depuis un certain temps, le couple n'a pas donné des enfants. Et là, ça devient un problème chez nous, c'est surtout un problème familial, où la famille commence à s'intéresser énormément, la famille de la femme en premier lieu. Hein. Et donc, dans un premier temps, c'est tout à fait le couple, mais ensuite, ça devient un problème social, hein, un problème familial.
Et les personnes qui viennent vous voir, justement, ces couples, ils exigent, ils réclament une grande discrétion de votre part, docteur Antoine Mosikwa. Ça fait partie vraiment de ce qui entoure cette spécialité?
Oui, oui, quand même, hein, quand même. Hein, toujours quelque chose qui est entreprise avec beaucoup de discrétion. On essaie de respecter le couple, de ne pas mettre leurs problèmes sur la place publique. Vous savez, dans les lieux de travail ou bien là où dans les quartiers, c'est toujours un peu indélicat de pouvoir indexer quelqu'un comme quoi il est stérile, il n'a pas d'enfant, il est impuissant, tout ça est lié, hein. Et donc, nous traitons ce sujet, effectivement, avec beaucoup de discrétion, hein, et beaucoup d'intimité, si vous voulez.
Avec toute une série d'amalgames et de stigmatisation. Alors, précisément, docteur Antoine Mosikwa, quelle prise en charge proposez-vous dans votre clinique?
Bon, nous sommes un centre de référence en PMA, donc en procréation médicaments assistés, le seul laboratoire de fécondation in vitro en République démocratique du Congo. Et donc, nous recevons généralement les couples qui ont été suivis par d'autres médecins, par d'autres gynécologues dans tout le pays. Le Congo est quand même un grand pays. Et nous recevons des malades partout pour passer surtout à l'étape définitive de la fécondation in vitro. Hein, et donc, nous faisons chez nous des techniques d'insémination intra-utérine, la fécondation in vitro classique, la fécondation in vitro avec micro-injection, hein, les dons de gamètes et les dons d'embryons. Voilà un peu les techniques qui sont développées chez nous.
Et quels sont les principaux obstacles auxquels vous êtes confrontés, docteur Antoine Mosikwa, ou plutôt auxquels sont confrontés les couples qui ont des problèmes de fertilité?
Bon, il faut dire que l'accessibilité à ce genre de technique est assez réduite du fait de plusieurs contraintes, si vous voulez, de plusieurs freins. Il y a d'abord un frein économique, c'est que la RDC, le Congo, est un pays pauvre. La majorité de la population vit dans la pauvreté, la misère, la précarité. Il n'y a pas de mutuelle de santé ou de sécurité sociale, et donc tous les frais qui sont nécessaires pour ce genre de prise en charge sont pris en charge par le couple et sa famille.
Et donc ça coûte très cher.
Et généralement c'est assez cher. Hein.
Merci.
Alors ensuite il y a un frais culturel, c'est que il y a plusieurs mœurs, plusieurs tribus dans notre pays, et dans certaines tribus, quand l'homme et sa femme n'arrivent pas à concevoir, la tribu, la famille de la femme lui propose une sœur de cette femme comme deuxième femme. Donc il y a la polygamie, voilà, qui fait que bon, le fait de ne pas avoir un enfant est relativisé dans certaines tribus. Ensuite, il y a le rôle des églises ici chez nous, hein, les pasteurs, les évangélistes, qui taxent ces techniques de démoniaques, et donc qui interdisent à leurs fidèles de pouvoir fréquenter ce genre de centre où de techniques de ce genre sont développées.
Avec ces obstacles culturels, merci beaucoup docteur Antoine Moussicois. Je rappelle que vous êtes gynécologue obstétricien, spécialiste en biologie et médecine à la New Medics Clinic de Kinshasa. En quelques mots, docteur Colin Chao, ces considérations éthiques hein, dans la pratique, on a peu de temps pour en parler. Est-ce que vous ressentez des pressions, on en a parlé à l'instant, culturelles d'ordre moral ?
Beaucoup. Nous, on a effectivement des personnes hein, qui viennent aussi de l'Afrique, du Sénégal, du Mali, même de la République du Congo. Et on a des personnes avec la pression donc d'ordre éthique, donc notamment sur la polygamie. Donc nous, on a des couples hein, qui arrivent ici et le monsieur il vient avec sa deuxième femme. Donc malheureusement, nous en France, c'est interdit. Donc on peut pas les aider. On peut pas les aider. Nous, officiellement, donc dans la loi, on prend en charge un couple administratif, donc qui atteste d'une vie commune d'un mari et d'une femme. Donc pas de la deuxième femme ou de la troisième femme.
Merci beaucoup, docteur Colin Chao. On aurait encore eu beaucoup de choses à dire hein, sur cette question de l'infertilité. De toute façon, on y reviendra très bientôt dans une prochaine émission de Priorité Santé. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes praticien hospitalier en gynécologie médicale, spécialisé en infertilité à l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis, en région parisienne. Bonjour docteur Catherine Solano.
Bonjour Caroline.
Vous êtes sexologue et nous allons parler avec vous du point G. Beaucoup de gens en parlent. Est-ce que c'est un fantasme ? Est-ce que c'est une réalité ? Tout d'abord, qu'est-ce qu'il y a derrière cette expression du point G ?
Alors le point G, on l'appelle comme ça parce qu'il a été découvert par un homme qui a pour initiale G. Il s'appelait Ernst Grafenberg. Et donc, c'est un nom qui fait un peu mystérieux. Peut-être d'où cette idée de secret et de mystère qui est attachée au point G.
Alors, pourquoi ce point G fait-il tant parler ?
Eh bien, c'est parce que il a l'air, en tout cas, de répondre à une question que se posent les hommes. Comment donner du plaisir à une femme à coup sûr ? Et donc, la réponse par rapport au point G, on a l'impression que c'est, eh ben, il faut trouver son point G et le stimuler. Donc, ça serait un peu comme une recette miracle. À tous les coups, l'on gagne, comme on dit des fois. Hop, vous touchez le point G, la femme a un orgasme. Et en fait, on a l'impression qu'un homme se dit, si je trouve son point G, je vais être un bon amant. Mais en fait, c'est pas si évident que ça.
C'est pas aussi mécanique en tout cas, mais est-ce que c'est vrai qu'une fois que ceux qui ont trouvé le point G, eh bien, ils ont une réussite à 100%, ça marche à 100%?
Eh ben, non, pas du tout, en fait, parce que ça a été beaucoup étudié, comme ça intéresse tout le monde. En fait, on estime que 10% des femmes seulement ont déjà éprouvé un orgasme par stimulation du point G. Donc, 90% n'en ont jamais eu, donc on est loin d'une recette efficace à 100%.
Alors, 10%, Catherine Solano, c'est pas rien, hein. Alors, où se situe-t-il ce fameux point G ?
Alors le point G, c'est une zone de quelques centimètres carrés. C'est pas un point comme le point d'un stylo, vous voyez. Et alors elle est située à l'intérieur du vagin, à 3 ou 4 centimètres de son entrée, sur la paroi avant du côté du ventre. Donc pour expliquer peut-être plus clairement, si une femme est allongée sur le dos et un homme qui serait, disons, à la place d'un gynécologue et qui ferait un toucher vaginal, si vous mettez un doigt dans le vagin, eh bien, il faut recourber le doigt vers le haut pour contacter le point G et pas très profond dans le vagin. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce point G, il est pas tellement sensible au frottement. C'est-à-dire que pendant un rapport sexuel, les frottements du pénis contre les parois du vagin, bah, ça donne pas tellement d'effet au niveau du point G, parce que ce point G, il est plutôt sensible aux pressions douces et un peu appuyées, qui durent un petit moment, un peu comme si on faisait un massage avec le doigt, si vous voulez, un massage doux, par exemple, un massage circulaire, ou alors pendant les rapports sexuels, il faudrait ne pas viser, disons, dans l'axe du vagin, mais un peu, faire des massages à cette zone.
Alors pour ceux qui se lancent dans l'aventure du point G, si un couple souhaite explorer justement, est-ce que c'est une bonne idée? Qu'est-ce que vous conseillez?
Alors oui, c'est une très bonne idée parce que vous voyez, je vous ai dit 10% des femmes seulement ont déjà eu un orgasme par stimulation du point G. Mais ça ne veut pas dire que les 90% d'autres ne pourraient jamais en obtenir. Donc on pense que si on s'entraînait à stimuler cette zone du point G, il y a bien plus que 10% des femmes qui pourraient avoir un orgasme. Peut-être pas 100%, mais peut-être 20, peut-être 50. Peut-être 80, je ne sais pas. Donc, pour que cette stimulation déclenche des sensations de volupté, comme on appelle ça, il faut déjà qu'une femme soit en état d'excitation. Ça sert à rien. Ce que je veux dire, c'est que si votre gynécologue fait ça, vous êtes stressé, vous n'êtes pas du tout en état d'excitation, ça vous fera aucun effet. Donc, il faut quand même, avant la stimulation du point G, faire des préliminaires avec votre partenaire pour qu'il y ait une certaine excitation.
Alors parfois ça marche, d'autres non. Et puis cette question, est-ce que c'est toujours agréable pour une femme, docteur Catherine Solano?
Eh ben pas forcément, parce que si vous voulez, cette zone du point G, elle a une particularité, c'est qu'elle est située juste en avant de l'urètre, le canal par lequel passe l'urine entre la vessie et l'extérieur. Et du coup, quand on stimule le point G, eh bien il a tendance à gonfler et souvent ça produit une sensation, ce qu'on appelle de faux besoin d'uriner. Donc on a une sensation urinaire. Donc il y a beaucoup de femmes qui disent au secours, tout d'un coup j'ai envie d'aller aux toilettes, donc ils disent à leur partenaire arrête tout, c'est pas possible de continuer. Et en fait, ce qui est intéressant de savoir, c'est que ce gonflement et cette sensation de faux besoin d'uriner, parce qu'en fait on n'a pas vraiment envie d'uriner, eh bien souvent c'est une sensation annonciatrice de l'orgasme. Donc il y a des femmes qui disent à leur partenaire arrête tout, alors qu'elles seraient peut-être sur le point d'avoir un orgasme. Donc le conseil qu'on peut donner, c'est aller uriner avant d'explorer votre point G. Comme ça, vous dites, si j'ai une petite sensation urinaire, ma vessie est vide, c'est pas ça.
D'où cette question de fond, hein, le point G, pour vous, Catherine Solano, c'est plutôt un fantasme ou une réalité?
Je dirais que c'est une possibilité de plaisir. C'est les deux, c'est un fantasme parce que c'est pas aussi magique que ce qu'on le dit. C'est quand même une réalité parce qu'il y a bien des femmes qui ont du plaisir. Donc en fait, on est extrêmement complexe en tant que femme sur le plan du plaisir. Et ce que je peux dire à tous nos auditeurs, c'est que si vous cherchez le point G, faut pas vous cantonner à cette zone de 3 cm à l'avant, dans le vagin. C'est que toutes les zones du vagin peuvent être érogènes. D'ailleurs, on parle des fois de point A, de point C, de point P, de point H à l'intérieur.
Il y a beaucoup de lettres à l'alphabet.
Ouais, il y a beaucoup de lettres à l'alphabet. Il y a des femmes qui sont sensibles beaucoup plus au fond du vagin, ce qu'on appelle les cul-de-sac vaginaux. D'autres qui sont sensibles sur les côtés du vagin parce qu'il y a les racines du clitoris sur les côtés. D'autres, c'est l'arrière. Donc, l'idéal, c'est d'explorer un petit peu tout.
Et la question de conclusion, est-ce que les hommes ont eux aussi un point G?
Ben non, les hommes n'ont pas un point G parce qu'ils n'ont pas de vagin déjà. Mais quelquefois, il y a des personnes qui disent oui, les hommes ont un point G. Ben, c'est un peu comme si on disait les hommes ont des ovaires. Non, ils n'ont pas d'ovaires, mais ils ont l'équivalent, c'est-à-dire des glandes sexuelles qui sont les testicules. Et donc, l'équivalent du point G chez l'homme, on considère souvent que ce serait la zone de la prostate, en fait.
Merci, docteur Catherine Solano, sexologue. Notre rendez-vous du jeudi dans Priorité Santé. Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique, qui réalise votre émission. C'est tout ça, Maquée, Ophélie Lassen, Didier Bleu, Laurent Hérault. On se retrouve lundi.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance. Célébrez nos 20 ans d'assurance en découvrant votre profil sur monbonprofil.com. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.